Rebonsoir, la bienvenue encore une fois en direct du Centre Bell pour le match canadien sénateur. Danny, bonsoir.
Bonsoir Martin.
C'est le troisième match en deux semaines à peine entre ces deux équipes et lors des deux premiers matchs, le Canadien les avait balayés, les sénateurs, en plus de marquer 10 buts dans ces deux matchs-là. Je ne sais pas à quoi on doit s'attendre de la rencontre de ce soir. Bobby Ryan est revenu au jeu, mais Matt Duchesne n'y est pas. Non. Mais il manque des soldats du côté de l'équipe de Guy Boucher ce soir. Duchesne n'est pas là. DeMello également manque à l'appel. Ça, c'était le partenaire de Thomas Chabot. C'est une équipe un peu plus amochée que celle qu'on a vue lors de cette fameuse série aller-retour. Est-ce que tu penses que les sénateurs ont quelque chose à offrir pour se venger ce soir? Ils arrivent de Détroit, ils ont joué hier.
Ils ont certainement un lapin dans le chapeau, ça s'appelle la jeunesse.
Oui.
Ils ont quand même plusieurs jeunes joueurs qui vont être sollicités ce soir, donc beaucoup d'énergie.
Le gardien McKenna, qu'on n'a pas vu une seule fois contre le Canadien.
McKenna qui sera lancé dans la mêlée. Ce sont des facteurs qui permettent à l'équipe d'avoir un discours différent dans l'entourage. Ouais. Moi non plus, je ne l'ai pas vu jouer, McKenna. J'ai l'impression que ça me laisse. Écoute, il a participé à 6 matchs. Et jusqu'à maintenant, ses chiffres ne sont pas très éloquents.
Il a remplacé Mike Condon là, pour un rappel aux gens, parce que Condon a été placé au ballottage et comme il n'a pas été réclamé, il est allé jouer pour le club école dans la Ligue américaine, oui, où il a beaucoup de succès, soit dit en passant.
Non, exactement.
Mais McKenna est arrivé depuis ce temps-là et c'est lui. Mais il faut dire, Danny, que Anderson avait eu tellement de problèmes dans les deux matchs contre le Canadien. 10 buts, il a accordé des mauvais buts là-dessus.
Oui, mais écoute, Anderson, probablement. C'est pas un gros gardien. Ouais. Physiquement, là, le gabarit. Et c'est un joueur qui a été extrêmement sollicité. 29 matchs depuis le début de la saison. Tu sais, 37, 38 ans. À un moment donné, là, une petite journée de congé une fois de temps en temps. Les deux en deux, tu vas t'assurer de les diviser. Puis, honnêtement, j'aime la décision des entraîneurs, des sénateurs, parce que le match qu'ils viennent de gagner était le plus important des deux.
Contre les Red Wings.
Les Red Wings, ils se devaient de gagner, ouais, pour rester dans la course. Là, maintenant, ils savent très bien qu'à Montréal, comme dirait l'autre, on est dû. Et on va tabler sur cet élément-là, sur l'espèce de sentiment d'urgence qui anime l'équipe, parce que s'ils perdent encore contre le Canadien, ils se placent dans une position très fâcheuse.
Ils ont pris beaucoup de matchs à gaspiller. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième portion de notre émission. Oui. Tu as parlé de repos pour Anderson. Ben, hier, à l'entraînement, Claude Julien en a offert à Price, oui, et à Weber. Ça nous donne l'impression, Danny, avant d'entendre les propos de Claude Julien à ce sujet-là, ça nous donne l'impression que Weber va continuer à jouer 26-27 minutes par match, puis si ça va en prolongation, il va peut-être aller à 30. Oui. Les matchs où son équipe va prendre trop de pénalités, ça va aller à 30 parce qu'il joue dans toutes les phases, 5 contre 5, avantages et désavantages. Mais ça nous donne aussi à penser que dans la séquence de matchs qui va commencer en quelque sorte lundi avec la visite des Bruins, mais surtout les 6 autres parties consécutives sur la route, là, ça nous donne à penser, Danny, que le Canadien veut se positionner et ça nous donne à penser aussi qu'on va utiliser beaucoup Price si on lui donne des congés d'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, on lui donne des congés d'entraînement pour s'assurer qu'il soit à 100% lorsqu'il est devant le filet. On est content, je pense, du fait qu'il a retrouvé sa vitesse de croisière. Ouais. Donc, tu sais, là,
à coïncider avec le retour de Weber.
Il faut juste que les gens gardent en tête que celui qui travaille le plus fort dans un match ou dans un entraînement, ça reste le gardien.
C'est le gardien de but.
Premièrement, il passe ses 60 minutes sur la glace. Même chose à l'entraînement. Il travaille, ouais, pendant toute la période d'entraînement, qu'elle soit de 30, 40 ou 50 minutes. C'est rare, 50 minutes, mais mettons à ce point-ci de l'année, 30, 40 minutes.
Puis souvent, il commence un petit peu avant les autres avec, oui, son coach et gardien de but.
Pour finir la technique, etc. Donc, tout ça mis ensemble, on accumule tous ces éléments-là, Martin. Alors, tu n'as pas le choix que de le laisser de côté à l'entraînement de façon aléatoire lorsque le calendrier se surcharge. Et là, tu parlais du calendrier. Deux fois trois en quatre, oui, en quatre matchs. Donc, en quatre soirs, trois matchs en quatre soirs, à deux reprises, les deux prochaines séquences sur la route du Canadien, c'est comme ça que ça va se passer. Mm-hmm. Donc, on ménage les cartouches, puis on se demande à la limite, est-ce qu'il pourrait jouer deux en deux?
Bien, c'est ça que je me dis, parce que L'entraîneur fait ça probablement. En tout cas, il y a peut-être un but derrière, et certainement un but derrière. On va écouter Claude Julien qui nous parle de ce repos qui est donné aux joueurs clés. Il y avait Chaput également qui n'était pas là à l'entraînement d'hier, mais les trois, là, Carey Price... Lui, il a bloqué un tir en troisième période du dernier match et ça a fait mal. Exactement. Alors, Chaput, Weber et Price sont allés sur la glace ce matin à Brossard. Il n'y avait pas d'entraînement officiel chez le Canadien. Il y a quelques réservistes aussi qui sont allés également sur la glace. On va écouter Claude Julien qui nous parle de ce repos qui semble être programmé pour les joueurs clés du Canadien.
Pour moi, je te donne l'exemple. Je pense qu'on a c'est dur quand même assez difficile d'ici Noël, là, avec 3-4 pour finir sur la route. Encore là, on joue à tous les deux jours à partir d'hier. C'est que ou même Minnesota, si tu veux, là, rien de facile. Alors, tu essaies de gérer les choses que tu peux contrôler. Pour moi, c'est de vraiment regarder comment je peux reposer mes joueurs sans peut-être toujours donner des journées de congé. Là. C'est que ça, c'est le plus grand défi pour moi que regarder le calendrier.
Alors, dans le cas du Canadien, quand il parlait du calendrier, c'est qu'il sous-entendait les affrontements contre les Sénateurs. Regarde le calendrier parce qu'il prévoit le repos pour ses joueurs. Danny, Claude Julien, qu'on a rencontré tantôt, a dit quelque chose d'intéressant au point de presse. Il a parlé de la préparation de son équipe, puis il a dit, il y a une chose qui m'a dérangé quand on a joué contre Minnesota. Si tu suis un peu les activités de la Ligue nationale, quand tes joueurs, faut que tu regardes ça un peu, là, tu sais que le Wild s'est fait planter le match d'avant.
Oui.
Puis là, ils reviennent devant leurs partisans. Tu dois savoir que...
Ils vont être prêts.
Ils vont avoir le couteau entre les dents. Ils vont être prêts. Il dit, moi, j'ai pas aimé mon équipe ce soir-là parce que les gars auraient dû le savoir. Et il a dit ça parce que on a battu les Sénateurs. On les a balayés 2 fois. 10 buts contre eux. On les a battus sur leur glace, battus sur notre glace. Ils vont avoir le couteau entre les dents ce soir, même s'ils sont dans un deuxième match en 2 soirs.
Je te disais tout à l'heure.
C'est
sûr, eux autres vont pas...
Je veux savoir ce que tu penses concernant cette forme de préparation d'avant-match. Parce qu'il y a les entraînements, il y a les réchauffements, il y a les séances vidéo. Mais ce que Claude Julien a semblé dire, là, c'est que dans la préparation de match, il faut que tu regardes un peu, il faut que tu suives la ligue, il faut que tu regardes le classement, puis il faut... nous faisons pour les matchs.
Exactement.
Il dit, mes joueurs devraient faire la même affaire.
Il a passé un message. Je pense qu'il a passé un message. Par les médias, il passe un message très clair.
Oui.
Là, amenez-vous pas à l'aréna juste pour jouer votre match. Vous devez être au courant de ce qui se passe sur la planète hockey.
C'est ça.
C'est important parce que ça a un impact sur ce qui se passe autour de vous, comment les gens réagissent. Ça explique bien des choses.
Oui, écoutez, Ron.
Écoutez Ron.
Oui, écoutez les amateurs de sport.
Allez, écoutez Martin.
Tu peux écouter tout ça.
Oui.
Absolument.
Les reportages.
Absolument.
Partout.
Absolument.
Cette
valeur, ils ne nous écoutent pas. La période d'échauffement, puis ils ne nous écoutent pas.
C'est ça. Mais trêve de plaisanterie.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant,
oui.
Les joueurs ont besoin de savoir pourquoi on leur fait faire les choses. Pourquoi on fait ça?
Ouais.
À quoi ça sert de faire ça?
C'est ça.
Est-ce que ça va être utile pour moi de faire ça?
Ouais.
Et aussi, dans la préparation, de plus en plus, le pourquoi devient extrêmement important.
Ouais.
Pourquoi c'est plus important ce match-ci que ça l'était au dernier contre les Sénateurs, par exemple?
Ouais.
Ou pourquoi il faut se méfier encore plus d'eux, même si on a un record, même si on a une fiche positive contre ces gars-là? Alors, c'est le genre de choses que je pense... En tout cas, à mon idée, que l'entraîneur tente de mettre en place afin de se donner un petit peu plus de poids dans son message à travers le quotidien et en disant à ses joueurs, vous n'êtes pas juste des gars qui venaient jouer au hockey. Là.
Non, c'est-à-dire des robots, mettez des patins, embarquez sa glace.
Intéressez-vous à ce qui se passe.
Voilà, on va l'écouter là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant ce soir.
Oui.
Oui, puis c'est une équipe qui marque quand même un bon nombre de buts. Alors, c'est important. Je pense défensivement, c'était plutôt le genre je ne suis pas certain du terme, là, mais le coverage, le D-zone coverage qu'on dit en anglais. Là, on a fait beaucoup de petites erreurs de ce côté-là. On a pratiqué hier et on a essayé de corriger ça. Pour nous, il faut, je pense, s'améliorer de ce côté-là, de savoir ce qui nous attend, comme l'exemple de Minnesota où ce qui avait connu un voyage difficile, revenu à la maison affamé. Puis j'ai trouvé qu'on n'a pas bien réagi. Alors, c'est des choses que, comme équipe, qu'on doit améliorer de notre côté. Toujours être prêt à jouer pour différentes raisons. Si tu suis le hockey, tu suis le classement, tu suis les autres matchs, tu sais qu'il y a des situations qui font qu'une équipe sont arrivées chez toi avec peut-être un petit peu plus de motivation. Puis c'est d'être capable d'être prêt à faire face à ces genres de confrontations-là.
Oui, intéressant. Alors, suivez un petit peu ce qui se passe. Suivez un petit peu ce qui se passe. Informez-vous. De toute façon, aujourd'hui, Danny, ils ont tous des téléphones qui peut envoyer ces informations-là aux 40 secondes à peu près.
C'est assez facile de savoir.
C'est assez facile d'être au courant. Évidemment, Danny, dans le cas du Canadien, on a fait quelques modifications sur le jeu de puissance. C'est la modification la plus importante qu'on a fait sur le jeu de puissance et dont on n'a pas vu encore. Bon, je dis pas vu tout à fait les résultats, là, parce que dans le match contre les Hurricanes, dans les 6 buts qui ont été marqués, il y en a un dans un filet désert et les 5 autres ont été marqués à 5-5. Il n'y a pas eu de but marqué en avantage numérique. Mais le changement important qu'on a fait avant le match contre les Canes, c'est de placer Petrie et Weber qui passent maintenant une assez grosse partie de l'avantage numérique sur la glace. Souvent, on va envoyer la deuxième unité et Weber et Petrie restent. On n'a pas encore vu les impacts réels de tout ça. Est-ce qu'on pourrait les voir ce soir?
À condition qu'on tire, à condition que la rondelle bouge vite, condition qu'il n'y ait pas d'hésitation, que la qualité des passes soit au rendez-vous. Martin, l'avantage numérique ne fonctionne pas parce que, un, ça prend trop de temps avant de décocher les tirs. La rondelle ne bouge pas assez rapidement. Et lorsqu'elle bouge, les fameux déplacements de rondelles sont trop prévisibles.
Pour mettre en chiffre ce que tu viens de dire, Danny, le Canadien en avantage numérique est 30e dans la Ligue.
Ouais.
Et en désavantage numérique, ils sont 26e. Avant de partir sur la route pour 6 matchs, il faut que tu règles ce problème-là. Faut que tu t'améliores un peu.
En tout cas, il faut que tu partes en confiance.
Ouais.
Tu ne régleras pas le problème du jour au lendemain, on en convient tous, mais que tu sois en confiance.
Ouais.
Et souvent, un petit peu de succès, puis... de meilleures séquences, plus de tirs au filet. T'as l'impression, au moins, quand tu décoches des tirs de qualité et que tu fais jouer le gardien, t'as au moins l'impression que tu t'approches de ton objectif.
Oui. Alors, ce sera intéressant de voir ce soir comment tout ça va se passer. Là. Et je vous rappelle qu'en plaçant Petrie et Weber ensemble, ça a modifié un peu la première unité. Là.
Ouais.
On demande maintenant à Domi, Drouin et Gallagher d'être les 3 premiers attaquants qu'on envoie sur le jeu de puissance. Et on a gardé Tatar sur la 2e unité d'avantage numérique avec, entre autres, Kenny Agostino. Et il a été un des joueurs qu'on a rencontré hier dans le vestiaire, Danny. Tu sais que quelques jours avant, Chaput nous avait dit, en parlant de lui, mais un peu aussi d'Agostino, en disant « On est à la mi-vingtaine, même dans la 2e moitié de la vingtaine. Les rappels, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Pour nous, c'est important de forcer la main aux Canadiens puis de jouer un peu comme s'il n'y avait pas de lendemain. Agostino avait dit un peu la même chose. Et il reste un peu sur ses propos. Puis il nous a dit quelque chose d'intéressant hier après l'entraînement de l'équipe. Il a dit qu'il appréciait énormément la ville de Montréal. Il apprécie l'ambiance autour de l'équipe. Et aussi, il semble s'être trouvé une bonne ligne de communication avec ce groupe d'entraîneurs, le groupe d'entraîneurs de Claude Julien. On va écouter Kenny Agostino à ce sujet-là.
Every game, we're just not looking past the next shift, just trying to play consistent hard hockey every shift. I don't know. I mean, I was given a good opportunity, I think, to show what I can do. And again, I don't know. My mindset going to train camp has kind of just been, you know, play simple hard hockey. You know, not look past every day. You know, kind of adapt to whatever role I'm put in. And
would you see that? Finally, you have the right fit here.
I think so. Yeah, you know, I've felt comfortable here since I've gotten here in training camp, and I hope this is the right fit. I feel comfortable here, and you know, I think the role I'm playing, I'm doing well, and so.
Is it the city, the system, the coaching staff?
I guess you could say a little bit of everything. Yeah, I like it all. You know, I like the city. Coaching staff's been great to me, and you know, we play a fun system, a fast-paced system, so it's fun.
Alors, beaucoup de choses là-dedans. La ville, le groupe d'entraîneurs qui il sent qu'on a confiance en lui.
C'est tellement
là.
Important, Martin. Je fais une petite parenthèse, si tu me le permets, parce qu'un joueur comme lui, là, c'est un joueur de soutien.
Ouais.
C'est important ce qu'on vient d'entendre de ce gars-là. D'habitude, personne ne le parle, eux autres. Là.
Non, ben c'est ça. Il faut qu'ils sentent la confiance un peu. Tu
travailles fort, là, puis tu es chanceux d'être ici. Ouais. C'est un petit peu souvent l'impression qu'on laisse à ces gars-là.
Ouais.
On fait le contraire avec lui. Il y a son intégration, le soutien, autant psychologique que sur l'aspect technique ou tactique du jeu, de lui permettre d'être à son meilleur, de le faire sentir important à sa façon. Toutes les contributions sont importantes dans une équipe de hockey. Il s'agit que l'entraîneur le démontre aux joueurs en lui en parlant, en discutant et souvent en montrant des séquences de jeu.
C'est pour ça d'ailleurs que Mathieu Pekka, après le dernier match, avait la fameuse cape.
Oui.
La fameuse cape médiévale. Ben oui, là, parce que j'aime pas dire la cape de poil. Je trouve que ça veut pas dire grand-chose pour les gens. Là, mais c'est en rapport avec un film, cette affaire-là. Là, c'est thématique, là, mais c'est l'histoire de Man Mountain, là, surnom de Shea Weber. Là, c'est en rapport avec un film. Mais je reviens là-dessus. C'est un peu pour ça, Danny, aussi, que ça, c'est les joueurs entre eux autres qui ont dit « OK, c'est toi, Mathieu, qui l'a », parce qu'il n'avait pas joué beaucoup. Il avait marqué un but. Il n'a pas marqué trois buts. Il avait marqué un but, mais il avait été plusieurs matchs sans jouer. Il a pris sa pilule. C'est un peu ça aussi, Danny, hein, c'est de sentir tout le monde, que tout le monde se sente important dans l'équipe.
Effectivement. Puis lui, en plus, il a quand même contribué parce que bon, des avantages numériques ont été utilisés. Tout ça, non? Écoute, je pense que c'est un bon choix. Puis ça démontre l'appréciation qu'on a pour les joueurs de soutien chez le Canadien, au cœur même de l'équipe.
Et j'utiliserai cette expression-là. Hier, lors du point de presse de l'entraîneur, on a eu une mise à jour sur le statut de Charles Hudon. Et Claude Julien a encore été très transparent hier, là, sans manquer de respect à Charles ou quoi que ce soit, là, sans dire que la porte était fermée pour lui. Il n'y avait absolument rien de ça, là, le Canadien avait démissionné sur Charles Hudon. Mais il y a un fait réel. Il a expliqué très clairement, Danny. Il dit on a une bonne quatrième ligne. Et quand il parle du mix qu'il aime, là, c'est Agostino Chaput. Des soirs, c'est Deslauriers, mais bon, ce soir, ce sera Pekka, mais d'autres soirs, ça va être Deslauriers.
Oui, oui, oui.
Quand l'équipe va aller dans l'Ouest puis qu'on va affronter quelques équipes un peu plus lourdes, ça va être Deslauriers au lieu de Pekka. On sent que Claude Julien ne veut pas toucher à ça. Et il dit actuellement, Charles n'est pas capable de supplanter aucun des 9 premiers attaquants de l'équipe.
Exactement.
C'est pour ça qu'il n'est pas dans la ligue.
Ça, j'aime cette transparence.
Absolument,
ça envoie un message clair. Charles a eu des chances. Lui, il doit être un petit peu plus hargneux que lorsqu'il est sur la glace. Puis la hargne de Charles Hudon et la hargne de Deslauriers, c'est pas la même, là.
Absolument.
Les gens pensent pas que quand je parle de hargne, je sous-entends qu'un gars comme Charles doit frapper tout ce qui bouge ou d'être... c'est pas son jeu, mais il doit être beaucoup plus tenace, beaucoup plus acharné. Un, pour avoir la rondelle, et deux, lorsqu'il l'a pour aller au filet. Il doit tirer plus au départ, là. C'est un tireur.
Parce qu'il a un bon lancer.
Oui, et lorsqu'il n'est pas en possession de la rondelle, il doit être beaucoup plus actif.
Et d'ailleurs, Claude Julien nous a dit qu'il travaille sur certaines choses à l'entraînement.
Parfait, ça.
On lui a donné des devoirs à faire et il travaille là-dessus actuellement. De toute façon, Danny, dans ce beau sport qu'est le hockey, on n'est jamais à l'abri de blessures. Et ça me donne une conclusion avant d'aller à ton plan de match. Il y a une chose qui est vraiment évidente dans le cas du Canadien au moment où on se parle. La blessure de Weber traînait depuis l'an passé. Là, il est de retour. Mais il faut dire que le Canadien lutte un peu contre la loi de la moyenne. Je vais toucher du bois pour eux là, en le disant, là. Mais le noyau dur de l'équipe n'a pas été encore atteint par les blessures jusqu'à maintenant.
Non, c'est clair.
Je ne veux pas conjurer le sort, mais c'est une réalité.
Je ne sais pas si c'est en dehors des ondes qu'on a parlé ensemble ou avec Ron, ou je ne me souviens pas, mais on avait touché ce point-là. Puis tu fais bien de le mentionner parce que les équipes en santé, habituellement, sont des équipes qui ont un certain succès, là, indépendamment de... Bon, ça prend un certain niveau de talent, mais c'est le cas du Canadien. C'est une équipe qui a assez de talent pour être en compétition, qui surprend à certains égards. Et en deuxième période, d'ailleurs, je vais te parler de ma grande surprise, celle de Max Domi, puis à quel point il me surprend. Je veux faire un parallèle entre lui et Sakou Koivu.
On va s'arrêter pour quelques messages et au retour, le plan de match, entre autres, et on va explorer un peu du côté des Sénateurs d'Ottawa qui envoient ce soir devant le filet un gardien qui n'a jamais joué contre le Canadien, l'auxiliaire McKenna, qui remplace Mike Condon, qui est maintenant dans les mineurs. Et on va jeter un œil rapide sur l'actualité dans la LNH. Tantôt, dans l'avant-match extra, j'ai parlé de quelques joueurs qui font flèche de tout bois, McDavid, Ovechkin, Marleau, mais il y en a d'autres qui retiennent l'attention pour de moins bonnes raisons, entre autres Patrick Bergeron. Berglund, une histoire un peu mystérieuse chez les Sabres de Buffalo, qu'on doit maintenant appeler les puissants Sabres de Buffalo. Espérons que ça ne dérangera pas trop l'équipe, cette histoire-là. On va s'arrêter pour des messages et Danny s'en vient avec le plan de match. Ottawa et le Canadien s'affrontent dans quelques instants à notre antenne. Restez là. Quatrième match sénateur-canadien, le dernier en saison régulière, Danny. Le fait que le Canadien a dominé les sénateurs au cours des deux derniers, là, 2-5-2, est-ce que ça va influencer le plan de match de Guy Boucher, entre autres, ce soir?
Bien, moi, je pense que Guy Boucher va demander à ses joueurs, malgré le style défensif très fermé, conservateur, il va demander à son premier joueur en échec avant d'être beaucoup plus actif qu'au dernier match. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui qui détermine un peu tout ce qui se passe par la suite. Alors, si lui, il est trop inactif, il est trop passif, il donne du temps et de l'espace aux joueurs du Canadien. Et normalement, là, lorsqu'on on fait ça contre le Canadien de Montréal, on paie très, très cher. Et ça a été le cas des sénateurs au cours des deux premiers affrontements. C'est une équipe jeune, il va leur demander d'utiliser beaucoup leur vitesse et de mettre de la pression sur les joueurs du Canadien. Donc, au-delà de juste du premier joueur, mais de compléter leur mise en échec, tout ça, et d'être très dynamique dans leur jeu pour enlever du temps et de l'espace aux joueurs du Canadien, forcer les erreurs. Il va également mettre l'accent sur le gardien qui est devant le filet, McKenna, en sollicitant ses joueurs pour le protéger, surtout l'enclave et la zone privilégiée. Du côté du Canadien de Montréal, au cours des derniers matchs, quand même, on a été très permissif en défensive, on a accordé beaucoup trop de buts.
Je pense qu'on veut être moins permissif que contre la Caroline, entre autres. S'il y a eu une victoire en bout de ligne.
Tout à fait, Martin, tu fais bien de le mentionner, parce que la victoire, des fois, il faut oublier les choses. Ouais. Moi, je n'ai pas aimé comment cette équipe a joué, a géré le cadran, le jeu défensif. Il y a eu plusieurs éléments qui n'étaient pas très, très favorables. Pour être bon dans sa zone, il faut prendre des décisions rapides, jouer du jeu extrêmement serré défensivement, rester avec son homme et être capable d'utiliser de bâton à bâton la couverture pour empêcher justement l'adversaire de trouver de l'espace et de libérer son bâton. Et la communication est essentielle, ce qui a été probablement un des points faibles du Canadien de Montréal. En avantage numérique, tout à l'heure, tu me posais la question, je le répète parce que ça faisait partie de mon plan match. Beaucoup de mouvements de rondelles, donc incisif et rapide. La précision des passes, c'est toujours important. Quick release, donc, de lancer rapidement, plus rapidement. Tu sais, souvent, je te montrais les jeux. Pour les gens qui nous écoutent, je pointais à Martin du doigt en venant dire, gars, là, il aurait dû décocher tout de suite. Il a fait une fraction de seconde. Il contrôle la rondelle. Tout le monde s'est replacé. Alors ça, c'est le genre de manœuvre qu'il faut éviter pour avoir une discussion d'avantage numérique. Et avant le voyage qui s'amorce, ce sera vraiment important.
Absolument. Alors, on s'arrête pour quelques messages et au retour, on parlera des sénateurs d'Ottawa qui sont privés notamment de Matt Duchesne ce soir. Jean-Gabriel Pageau n'est toujours pas prêt à revenir au jeu et les défenseurs Yaros et DeMello qui sont dans le top 6 de cette équipe à la défense seront absents ce soir. En direct du Centre Bell à Montréal, vous écoutez le hockey du Canadien à l'antenne d'une station Cogeco. Nous sommes de retour au Centre Bell à Montréal pour le match entre le Canadien et les sénateurs d'Ottawa. Le Canadien pourrait donc, en gagnant ce soir, s'ils le font, pourrait remporter la série de 4 matchs en saison régulière face à l'équipe de Ottawa. Les sénateurs ont battu le Canadien le 20 octobre dernier devant leurs partisans. Une victoire de 4-3 qui a été acquise en prolongation. J'ai parlé des blessés tantôt chez les sénateurs d'Ottawa. Il y a quand même un dossier intéressant qu'il faudra suivre. Si jamais les sénateurs se détachaient du groupe qui tente d'accrocher les deux positions d'équipe repêchée dans l'Est, Danny, il faudra surveiller à savoir comment se dérouleront les dossiers de Matt Duchesne et de Mark Stone. Ces deux agents libres sans restriction à la fin de la saison, donc en juillet prochain. Les sénateurs, techniquement, à compter du 1er janvier, peuvent faire des offres à ces deux joueurs-là. Est-ce qu'ils le feront? Est-ce qu'ils en choisiront un des deux? Est-ce que le comptable du propriétaire Melnyk donnera toute la marge nécessaire au directeur général Pierre Dorion pour qu'il fasse, concrétise la signature de ces deux joueurs-là? Est-ce qu'il devra en choisir un des deux? Ça va être intéressant, Danny, parce que tu en places un des deux sur le marché ou même les deux, ça va être des prises intéressantes pour les équipes qui veulent louer des joueurs.
Oui, mais écoute, c'est peut-être une des organisations les plus difficiles à prévoir.
À cause de leurs moyens financiers et de leur imprévisible propriétaire.
Et c'est ça, leur état d'esprit, le fil conducteur, on ne sait jamais. On ne sait jamais dans quelle direction
Et ce n'est pas les hommes de hockey, comprenons-nous bien. Ce n'est pas, d'eux qu'on soulève les questions.
Non. Eux sont coincés. Là, sont un peu pris avec tout ça, si vous me prêtez l'expression, mon cher Martin. C'est un peu ça.
Oui.
Dans le fond, c'est ça.
Oui.
Et donc, pour nous, on regarde ça de l'extérieur et on se dit comment ils vont fonctionner avec ces dossiers-là. Ben moi, je pense que Mark Stone, c'est un incontournable. Là. C'est un des meilleurs joueurs.
C'est un sénateur, lui. Là.
C'est un sénateur et c'est développé, un des meilleurs repêché, joueurs sénateur. Au cours des cinq dernières années de cette formation. Pas de privé de lui. Là.
Par contre, tu as besoin d'un joueur de centre pour le faire, entre guillemets, marcher.
Ben là, je regarde.
Tu dis l'expression.
Tu suivras avec moi comme il faut, très attentivement.
Il joue avec
le
White.
Le travail de Colin White.
Oui.
Parce que moi, je trouve que c'est un joueur prometteur.
Alors, toi, tu penses que on pourrait choisir Stone parce que c'est un sénateur, mais peut-être qu'avec White, et peut-être que si on replace aussi le jeune Logan Shaw qui est avec le club école, là, parce que Logan Shaw est un espoir de premier plan au centre, sauf que là, il a besoin, excusez l'expression, d'un petit traitement choc. Est-ce que on est en train de lui donner ça avec le club école? Parce que le club école des sénateurs va très bien dans la Ligue américaine.
Oui, c'est sûr.
C'est un des bons clubs de la Ligue cette année, le club école des sénateurs.
Oui. Ils ont de très bons jeunes joueurs. Encore une fois, moi, je pense qu'on mise sur la jeunesse chez les sénateurs pour les raisons évidentes d'argent, mais aussi parce qu'ils ont de bons jeunes. Mais c'est sûr que dans le meilleur des scénarios, Martin, là, ça te prend un joueur, ton premier joueur de centre et un petit peu d'expérience. Mais je regarde ce qui se passe actuellement avec Max Domi ici.
Ouais.
Alors, le pari en vaut la peine avec White parce que c'est un très bon joueur.
Et c'est un joueur de centre naturel. White. On ne parle pas d'un joueur qui était ailier.
Qui a eu ses difficultés l'an passé. On l'a retourné dans les rangs mineurs et tout ça. Mais là, je trouve que ça se passe bien pour lui. En tout cas, depuis le rappel, là, il joue du très bon hockey. J'ai bien aimé l'autre soir. Là.
Et il faudra surveiller également, et je terminerai là-dessus, dans l'avenir à plus ou moins, à moyen terme, disons, ce qu'on va faire devant le filet, Danny. On a un jeune très prometteur également dans la Ligue américaine, un peu comme les Flyers de Philadelphie. Là, ils ont le jeune Hart. Les sénateurs ont un jeune gardien de but européen qu'ils ont eu dans une transaction de la part des Penguins de Pittsburgh dans la transaction qui a impliqué Brassard, Derek Brassard. C'est un très bon jeune gardien de but, un gars d'avenir. Il joue beaucoup actuellement avec le club école dans la Ligue américaine. Alors là, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va chercher à troquer Anderson? Anderson ne sera pas facile à échanger, mais il peut peut-être avoir des preneurs. Est-ce qu'on vraiment... Ouais. Est-ce que devant le filet aussi, on va se tourner vers les jeunes ou on voudra avoir un vétéran qui vient d'ailleurs pour intégrer le jeune prometteur? Et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire aussi ce département-là.
Moi, ce que je pense, avec un gardien, il ne faut pas aller trop vite. Il faut laisser le gardien supplanter l'autre. Mm-hmm. Tu sais, je regarde ce qui s'est fait avec Vasilevski, avec Tampa Bay. Je n'étais pas convaincu au début. Moi, je croyais
avec Bishop, là?
Oui. Lorsque Bishop était là, je n'étais pas convaincu de ça. Je croyais vraiment qu'on aurait dû laisser jouer Vasilevski le plus longtemps possible, prendre le filet, puis vraiment de dominer la Ligue américaine. Eux, ils ont décidé le contraire. Mais ce que ça leur a permis de faire et de voir, c'est que il y a eu un moment où on a senti que Vasilevski était prêt à prendre charge. On l'a senti.
Ouais.
Bon, évidemment, le rôle de l'entraîneur des gardiens, le type, la dynamique, la qualité de l'environnement là-bas, tout ce qui se passe avec les sénateurs, c'est un milieu qui est différent de celui de Tampa Bay, où Tampa Bay, il y a de la stabilité depuis plusieurs années.
Et des budgets.
Mais de la stabilité, c'est important aussi.
Oui, c'est sûr.
Même s'il n'y a pas d'argent, de la stabilité, une bonne vision, tout ça, les choses se stabilisent. Là, eux autres, ça va être différent. Donc, je ne sais pas comment on va gérer la situation du gardien, mais chose est sûre.
Parce qu'il faut voir à ça, là.
Oui.
Les sénateurs n'avanceront pas beaucoup si on continue avec Anderson sans méchanceté, sans manque de respect.
Il est dans les mineurs. L'année suivante, tu l'amènes comme gardien de but numéro 2. Et tranquillement, pas vite, tu évalues sa capacité à prendre la charge de travail. Et graduellement, tu soustrais Anderson et tu fais juste lui enlever des matchs.
C'est clair.
Jusqu'au temps où tu sens que l'autre est capable de prendre les 55 à 60 matchs nécessaires pour compléter une saison numéro 1.
Merci, Danny. Voici maintenant la chronique de la LNH.